on va revenir maintenant à la guerre, 87e jour de guerre. On va retrouver Antoine Delard à Washington pour BFM TV. Antoine, parce que c'est vrai que la question maintenant se pose, savoir si vraiment on est à quelques heures d'un accord au regard des dernières déclarations de Donald Trump, d'un accord de cessez-le-feu avec l'Iran.
Écoutez, Donald Trump dit que les discussions avancent gentiment, mais il ne fixe pas vraiment d'horizon sur ou de date pour la conclusion d'un accord. Ce qu'on remarque ce matin surtout, c'est que Donald Trump semble particulièrement agacé, remonté face aux doutes et aux critiques qui se font entendre ici aux États-Unis autour de ce projet d'accord. Des doutes, une partie de la presse qui explique que Donald Trump semble prêt à vouloir conclure un accord au plus vite, à tout prix, quelles que soient les conditions pour se sortir de ce bourbier iranien. Et puis les critiques des démocrates, sans surprise, mais aussi des critiques qui viennent d'élus républicains, certains sénateurs pourtant proches de Donald Trump, qui s'inquiètent du fait que Donald Trump pourrait lâcher trop de lest sur l'uranium enrichi, sur les avoirs gelés iraniens. Il parle d'un accord potentiellement désastreux. Et ça ne plaît pas du tout à Donald Trump. Il ne veut pas donner l'impression qu'il est en position de faiblesse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. Et donc, il tient à mettre les choses au point aujourd'hui. D'abord, en expliquant que ceux qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas sur quoi portent exactement les discussions. Il dit que ce sont des losers, qu'il ne faut surtout pas les écouter. Et puis, Donald Trump réitère ses menaces de reprendre les hostilités si les choses n'avancent pas. Il dit que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, on reviendra sur le champ de bataille et que les frappes seront encore plus puissantes, plus violentes que les précédentes. Trump assure en tout cas qu'il y aura un accord excellent ou pas d'accord du tout. Et puis, ce qu'on remarque aussi ce matin dans un de ses messages, c'est que Donald Trump fait un très très long dégagement sur les accords d'Abraham, c'est-à-dire le processus de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes. Un processus que Trump avait initié lui-même lors de son premier mandat. Il veut aller plus loin désormais en disant que tous les pays du Golfe doivent rejoindre ces accords, notamment l'Arabie Saoudite et même l'Iran, dit Donald Trump. Pour le moment, ça relève totalement du fantasme. Mais en écrivant cela, Donald Trump tient à nouveau à montrer qu'il est en train d'enclencher quelque chose de potentiellement historique qui va complètement transformer le Moyen-Orient. Et ça aussi, finalement, c'est une réponse à ses critiques, à ces doutes qui sont émis ici aux États-Unis autour de cet accord qui est en gestation.
Merci Antoine Delard en direct de Washington pour BFM TV.
Alors Ulysse Gosset, paix ou pas paix aujourd'hui? Parce que c'est une question qu'on se pose à peu près tous les jours sur BFM TV depuis ce week-end, puisque Donald Trump a annoncé qu'on y était presque. Quels sont les points d'achoppement? Quels sont les points chauds en fait encore?
D'abord pour répondre, je dirais ni guerre ni paix, mais plutôt mémorandum. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fait des semaines que l'on discute d'un texte assez court qui permettrait, je dirais, de prolonger le cessez-le-feu d'une soixantaine de jours et de poursuivre la discussion sur les points qui posent problème. Donc, il y a un mémorandum actuellement qui circule entre les Iraniens et les Américains, avec évidemment le soutien de pays aussi divers que le Pakistan, le Qatar ou autres, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Bref, il y a un consensus pour qu'un mémorandum soit enfin signé, comme on en parlait déjà depuis au moins 45 jours, et qui n'a pas encore été rendu public. Donc si ce mémorandum est signé, alors ça ouvrira une nouvelle période qui pourrait durer, bon, d'abord le temps que ce mémorandum soit près au moins une semaine, hein, on parle d'une semaine avant d'avoir un texte qui serait validé par les deux parties, et ensuite une nouvelle période de 60 jours. Alors, qu'est-ce qui fâche? Votre deuxième question. Et évidemment, ce qui fâche, c'est le nucléaire. Qu'est-ce que les Iraniens sont prêts à concéder? Est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, à interrompre la fabrication d'un uranium enrichi? Pendant combien de temps? Qu'adviendra-t-il des 441 kilos d'uranium déjà enrichi à 90% qu'ils n'ont jamais véritablement accepté de rendre? On parle beaucoup d'une dilution sur place de cet uranium et non pas de son exportation vers la Russie, la Chine ou un autre pays qui pourrait effectivement le mettre en sécurité. Donc ça, c'est les deux points essentiels. Et puis, pour le reste, quelle serait la contrepartie? C'est-à-dire, est-ce que les sanctions seraient levées à l'égard de l'Iran? Est-ce que les fameux avoirs iraniens, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais au minimum 15 milliards de dollars qui seraient effectivement rendus à l'Iran s'il y avait un accord? Ce sont toutes ces questions qui sont sur la table aujourd'hui, et pour l'instant, on attend d'avoir un élément concret de la Maison-Blanche.
Alors, le nucléaire, justement, parlons-en avec Emmanuel Galichet, l'enseignante chercheure en physique nucléaire. Ça veut dire quoi, diluer sur place le nucléaire, concrètement? Expliquez-nous.
Alors, ça veut dire que vous prenez une espèce de grosse marmite, vous mettez cet uranium enrichi à 60%, vous mettez de l'uranium naturel, donc l'enrichissement est de 0,7%, et vous mélangez. Alors, il faut prendre quelques précautions, évidemment. On fait pas, c'est un peu comme de la cuisine, mais de la cuisine avec des grandes précautions. Mais c'est pas très difficile, en fait. Il faut quand même un laboratoire nucléaire. Si effectivement les Iraniens ont conservé, malgré les bombardements, un certain nombre de laboratoires et de salles qui sont équipées, on peut imaginer une dilution sur place.
Mais qui peut contrôler ?
Ah ben, la question est là. C'est tout à fait juste, oui, bien sûr. Donc ça, il faut absolument qu'il y ait l'AIEA, il faut qu'il y ait des experts transparents.
L'Agence internationale pour l'énergie atomique.
Exactement. Oui. Donc des experts nucléaires qui vont sur place, qui ont un mandat international et qui n'ont aucune problématique politique avec l'Iran.
Une des propositions venant des États-Unis, c'était de partager en deux. Une partie restait donc sur place en Iran et une autre partie pourrait aller aux États-Unis pour que, en quelque sorte, Donald Trump et sa prise de guerre et puisse dire aux Américains, regardez, j'ai ramené le nucléaire iranien.
Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance?
C'est possible, ça?
Ça, c'est possible, bien sûr. Oui. C'est possible. Ça a été déjà fait plein de fois. Leurs avions, il faut qu'ils atterrissent au bon endroit. Ils les mettent dans les avions, ils repartent.
Parce admettons qu'il y ait cette espèce de cadre qui soit signé. Est-ce que vous leur faites confiance ou pas?
Absolument pas. Écoutez, ça fait 47 ans qu'ils nous mènent en bateau sur tous les sujets. Les 60 jours, c'est encore 60 jours de gagner pour eux, avec en plus la semaine dont vient parler Ulysse avant d'arriver au mémorandum. Donc plus 60 jours, on arrive à début août. Donc après, on arrive beaucoup trop près de la rentrée, les élections, etc. Donc,
ça veut dire que 60 jours, pendant 60 jours, le détroit d'Ormuz reste bloqué?
Non, il faut mentionner effectivement que si mémorandum il y a et s'ils se mettent d'accord, la première décision, c'est le cessez-le-feu prolongé et
la réouverture
du détroit d'Ormuz. Et ça, si vous voulez, on peut dire...
Ce qui permet quand même de soulager tout le monde.
Sous condition iranienne, c'est-à-dire avec le racket... avec le racket qui est inacceptable. Parce que imaginez-vous bien que si l'Iran s'amuse à faire...
Il faut rappeler qu'avant la guerre, le détroit d'Ormuz, on entrait...
Exactement,
enfin,
ce serait
la libre circulation maritime.
Ce serait une totale débâcle pour Donald Trump si on arrivait à cette situation-là. Je vous le dis très objectivement. Un détroit qui serait payant et qui avec lequel l'Iran s'enrichirait, qui lui permettrait de continuer à financer le terrorisme international et à financer ses outils de guerre, ce serait une catastrophe.
Sauf que c'est pas le plan prévu. Il s'agit pas du tout d'avoir un détroit d'Ormuz payant.
Oui,
il s'agit que les deux pays concernés, c'est-à-dire Oman d'un côté, l'Iran de l'autre, qui avant la guerre permettait le passage des pétroliers, est un code de conduite avec une réglementation et effectivement l'observation de certaines règles iraniennes.
Oui, est-ce qu'elles sont acceptables? Sauf qu'on parle de frais de navigation.
Oui, de service et de dépollution.
Mais personne n'a vu aujourd'hui le texte iranien. C'est pour ça que parler aujourd'hui de raquettes ou d'autre chose, c'est
mais Jérôme Clèche, on voit bien que les Iraniens essaient de pousser leur avantage. Ils ont l'impression d'avoir finalement dans ce rapport de force un peu cet avantage-là. Le temps joue pour eux. Le régime est toujours en place. Il a un peu changé de nature, mais il est quand même toujours en place. On nous dit même aujourd'hui que le guide suprême, finalement, il a des blessures superficielles. Bon, on ne l'a pas vu depuis...
on peut arrêter ce mythe. Les blessures superficielles qui datent de plus de deux mois, objectivement, je sais ce que c'est qu'une blessure superficielle.
Je le dis avec ironie, mais ça montre bien quand même que le régime iranien est assez sûr de lui.
Mais tout à fait, le bilan que vous faites sur ce qu'on peut résumer par une forme de dominance stratégique dont, j'allais dire, le verrou principal est Hormuz, et on l'a dit à plusieurs reprises, le bilan que vous faites est effectivement très juste. Et c'est bien la raison pour laquelle l'Iran, j'allais dire, depuis 24-48 heures, où, souvenez-vous, se dessinait quand même un accord qui, effectivement, et j'allais dire, pour une fois, je serais d'accord avec Philippe Carsenti, cet accord, effectivement, était une forme de débâcle pour Donald Trump.
Donald Trump.
Et c'est ce qui semblait se profiler. Or, on voit bien que depuis 48 heures, les choses se défont légèrement. Parce que si je fais suite à ce que disait Ulysse, il était question à un moment que la réouverture du détroit d'Ormuz se fasse sans taxe, mais que ce soit adossé à une levée partielle des sanctions, un dégel partiel des avoirs, et on parlait d'une somme de 25 milliards. Et il n'en est plus du tout question. Il est question que la levée de ces sanctions se fasse progressivement.
Oui. Ça commencerait par 10 milliards.
Ça se ferait surtout après la réouverture du détroit d'Ormuz, et pas avant. Et puis, il était question aussi que le nucléaire soit vraiment rejeté, j'allais dire, au calende grec. Finalement, ce n'est plus tout à fait le cas. Il était question aussi que ce soit un cessez-le-feu total, incluant le Liban. Et là, vraisemblablement, Donald Trump aurait donné quand même des gages à Benjamin Netanyahou en lui disant « si tu veux continuer de ton côté sur le Liban, tu peux ». Donc ça veut dire qu'en réalité, on sent que Donald Trump se bat davantage avec les néoconservateurs et Benjamin Netanyahou pour arriver à faire accepter finalement un préaccord qui, au départ, a semblé à cette population-là beaucoup trop faible. Et en effet, au regard de la guerre qui a été menée, ce serait un tout ça pour ça. Et ils n'en veulent pas.
Oui,
et
mais les Iraniens vont accepter ça.
Eh bien, bien sûr que non, puisque la situation dans laquelle ils sont, ils se rétractent. Et donc, on finit par patiner.
C'est pour ça qu'on aura la guerre, c'est tout.
Et donc, vous pensez qu'on patinera jusqu'à jusqu'à la guerre.
Je pense que de toute façon, il n'y a aucun endroit où les propositions américaines et les propositions iraniennes peuvent se rencontrer. On est face à nous un régime apocalyptique. Moi, je ne crois pas que l'Iran soit en si bonne situation. Je ne crois pas, de ce que j'entends, que l'Iran est en mesure de mener une guerre qui va ravager le Moyen-Orient. Je pense que la guerre que mèneraient les Israéliens et les Américains, avec le soutien des pays du Golfe, parviendrait à faire plier le régime.
Bah, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas.
Il y a eu, comme on dit, 40 jours, 47 jours de renseignements sur le terrain et satellitaires pour créer une banque de cibles beaucoup plus efficace que ce qui était précédemment. Donc moi, je suis très confiant sur le fait qu'en cas de reprise d'une guerre, qu'on parvienne à libérer.
Donc là, pour le coup, c'est là où mon analyse diverge totalement de celle de Philippe Carsenti, c'est que ce qui n'a pas réussi en 37 jours n'a pas plus de chances de réussir maintenant. D'ailleurs, si Donald Trump se noie dans ses propres atermoiements depuis maintenant un mois et demi, dans ce cessez-le-feu, c'est bien parce qu'il sait, et sans doute que son état-major, enfin précisément son état-major le lui dit, y compris aussi son conseil resserré, que toute aventure guerrière, cette reprise des hostilités, n'a aucune chance de véritablement aboutir. Et surtout, la riposte iranienne peut être encore plus virulente qu'elle ne l'a été sur les pays du Golfe. D'ailleurs, on voit que cette sortie par le haut, cette tentative de sortie par le haut de Donald Trump en remettant sur le tapis les accords d'Abraham, censés finalement assurer une forme de sécurité aux pays du Golfe, alors que loin de leur assurer...
Vous rappelez ce que sont les accords d'Abraham?
Rapprochement des États arabes,
Israël. Et les pays du Golfe.
Qui avait été d'ailleurs largement renforcé autour d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, vous souvenez, à la veille du 7 octobre.
Et on voudrait que ces accords d'Abraham soient inclus finalement dans l'accord global.
Voilà. Et loin de leur apporter de la sécurité, sur le cas présent, ça leur a apporté plutôt de l'insécurité, puisqu'ils ont été jetés, ces États du Golfe, dans un conflit qui n'était pas tout à fait le leur. Tout ça pour dire que, à nouveau, les États du Golfe, s'il y avait une reprise des hostilités américaines, paieraient un très très lourd tribut. Les Américains aussi, au passage, on l'a vu avec leurs 8 bases à travers 16 sites, on l'a vu aussi avec leurs 12 radars critiques qui servent véritablement à mener les opérations, et puis un certain nombre de dispositifs, notamment aérien, sur de l'aviation stratégique.
Pour rester sur,
négligeable.
Pour rester sur le nucléaire, quand même, avec vous, Emmanuel Galichet, le fait d'insister autant sur cet accord, ça veut donc dire que le nucléaire, il est là, que les installations sont là, que tout est intact, il y a peut-être encore les ingénieurs, contrairement à ce qui avait été dit au fil des frappes en disant... Tout a été détruit, tapé, endommagé, etc.
Oui, ça a été endommagé, effectivement, mais vous avez raison, tout est encore là, dans le sens où la compétence, le savoir-faire, les universités et la recherche qu'ils ont menée depuis des dizaines et des dizaines d'années, elle est toujours là. Je rappelle que l'Iran, c'est plus de 230 000 ingénieurs formés par an, avec deux projets principaux, étatico-industriels d'ailleurs, l'aéronautique pour les missiles, le nucléaire pour l'arme atomique. Et ça, c'est depuis, les années 2000 où on a vraiment cette information-là. Et d'ailleurs, même s'ils sont sur un projet civil, ils l'ont développé de manière impressionnante depuis le Shah. Donc en fait,
Donc ça fait un demi-siècle.
Donc ça fait quasiment un demi-siècle qu'il y a certaines installations qui existent, évidemment, et que les ingénieurs et le savoir est là.
Vous avez raison, et ça veut dire que 90 millions d'Iraniens sont mis au pain sec et à l'eau depuis au moins 25 ans pour un projet apocalyptique qui est de détruire un État, Israël, et qu'à un moment donné, on voit bien qu'ils sont aussi en mesure d'essayer de détruire les États à côté, et c'est pour cela que je ne comprends pas, et ça je vous le dis très objectivement, qu'il n'y ait pas une coalition internationale qui se mette à faire plier l'Iran. Et je crois, contrairement à ce qu'on a entendu à la suite de la visite en Chine, je ne pense pas que l'Iran bénéficiera du soutien satellitaire de la Chine tel qu'il a pu avoir lieu lors de la première partie de la guerre.
Ce qu'on peut dire ce soir avec certitude, c'est que des émissaires iraniens de très haut niveau, à commencer par le président du Parlement, sont arrivés au Qatar. C'est-à-dire que la négociation qui jusqu'à présent était au Pakistan se déplace vers le Qatar avec l'idée d'avancer sur ce fameux référendum. Ça, c'est important. C'est vrai que le temps joue en faveur des Iraniens et c'est vrai que Trump est piégé. La question, c'est comment peut-il sortir du piège? En faisant la guerre, on voit bien que le monde entier attend un accord pour mettre fin à la hausse du prix du pétrole, de l'essence, et redonner une chance à l'économie mondiale pour qu'elle ne subisse pas une récession. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, quand certains parlent de guerre et d'autres parlent de négociations, le monde a envie d'une paix en Iran qui se termine par la reprise de l'activité économique.
Merci à tous.